Virginie Doleb-Nzanga, pardon, qui est religieuse dominicaine, qui vient du Burkina Faso, et Eddy Bollard Irakoze, qui vient du Burundi. Je propose de céder tout de suite, sans plus de façon, la parole à Ousmane pour qu'il nous parle un peu du voyage de Macron en Afrique centrale et la façon dont ça s'est passé, effectivement, dans les relations. Enfin, que je veux dire, comment est-ce que Macron a réussi à ne pas réussi à faire en sorte de changer la vision que les Africains peuvent avoir de la France. Ousmane, vous avez la parole.
Merci Vincent, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je salue tout le monde. Alors, si je dois répondre à la question, je ne pense pas que ce type de tournée peut changer, enfin, de façon en tout cas immédiate, quoi que ce soit. Je pense que c'est plutôt beaucoup de communication, avant tout. Et voilà, donc je pense que les choses ne peuvent changer que quand les politiques annoncées sont mises en place. Premier constat. Deuxième chose, il me semble, moi j'ai été surpris par le côté rapide, chargé du voyage vers autant de pays en peu de jours, était assez compliqué. Et moi je suis dubitatif et je m'interroge sur certaines étapes du voyage. Le vendredi, par exemple, il a fait trois pays. Il a fait le matin en Angola, l'après-midi Congo-Brazzaville et le soir en RDC. Et puis, il y a toujours des problèmes de cohérence. L'étape, autant sur l'Angola, il y avait une volonté, il a affiché dès son premier mandat de diversifier la coopération, de diversifier, de sortir un peu de l'espace francophone. Donc, il avait visité le Nigeria, il visite l'Angola, toujours avec cette ligne et cette perspective. Ça se comprend. La RDC, ça se comprend. Avec la guerre à l'Est. Mais le Congo-Brazzaville, c'était moins compréhensible. On fait les choses à moitié. Il y va sans pour autant vouloir y aller. Donc, il y va avec l'objectif de faire manifestement le service minimum, c'est-à-dire de s'afficher le moins possible, une déclaration là. Par exemple, à Brazza, il n'y avait pas de déclaration de presse prévue. Bon, le président Denis Sassou Nguesso, lui, était dans une logique contraire et a tenu à faire une déclaration de presse. On a vu que malgré lui, le président français, ah, il était obligé de s'afficher, de faire une déclaration de la presse à la presse commune. Donc voilà, il y a ce type d'incohérence qu'on retrouve, c'est-à-dire une posture assez volontariste. On va partout, on parle avec tout le monde, mais en même temps, on parle pas avec certains comme on parle avec les autres. L'autre cohérence qu'on marque, l'autre incohérence qui m'a frappé, alors d'entrée de jeu, hein, par exemple au Gabon, la ligne de l'Élysée, c'était de dire pas de rencontre avec l'opposition, pas de rencontre, en tout cas entre le président de la République et la société civile et l'opposition. Donc ça, c'est l'étape du Gabon. Or, l'étape du Congo, bien que c'était caché, c'était officieux. On a appris plus tard que le président français a rencontré Denis Mukwege, qui est prix Nobel, qui est certes médecin, acteur de la société civile, mais dont on sait que un mouvement essaie de le pousser à une candidature. Donc, je trouve que la ligne n'est pas toujours d'une cohérence, en tout cas visible. Autre remarque que je note, c'est comme tous ses prédécesseurs, il est dans cette forme de figure quasi obligée de déclarer la mort de la France-Afrique. Comme si c'est par décret que ce qu'on appelle confusément la France-Afrique va mourir. Il me semble, de toute façon, la mort de la France-Afrique, c'est un serpent de mer. Parce que je ne pense pas qu'on puisse tuer cet ensemble d'enchevêtrements, de relations à la fois politiques, sociales, culturelles, humaines, etc. Moi, je dis toujours que la question qui est posée avec ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est la question de la transparence, c'est la question de la corruption. Il faut nommer les choses. Que les relations personnelles ou les parcours personnels tissent des liens d'affaires, etc., pourquoi pas. Mais la particularité de la relation avec l'Afrique, c'est que ça s'est toujours traduit par de la corruption. Tout le monde connaît les histoires de mallettes, les histoires d'argent en liquidité qui circulent. Donc, pour moi, le problème de la France-Afrique, il y a un aspect pis-aller, il y a un aspect fourre-tout qui n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que ces réseaux, qu'ils soient parallèles, qu'ils soient souterrains, etc., doivent être des réseaux assez retraçables en termes de corruption, en termes de gouvernance, etc. Donc, il me semble que proclamer la mort de la France-Afrique, c'est faire à proprement parler que de la communication, parce que on ne liquide pas une réalité dynamique comme ça. Voilà, avec des déclarations. Je pense que même il y a quelque chose de suspect à le déclarer, enfin, à chaque fois autant. Et puis bon, on sait que, d'autant plus qu'on sait que une partie du personnel diplomatique, une partie de ces personnalités qu'on peut identifier comme membres de la France-Afrique était partie prenante de ce voyage. Donc, voilà, ça n'a pas de sens de dire ça. Par contre, il me semble qu'il y a une rupture qui l'amorce, qui me paraît important. Et paradoxalement, cette rupture d'ailleurs intervient la veille du voyage. Il y a toujours une question que je me suis toujours posée, c'est quand le président français s'adresse, fait un discours aux Africains, il s'adresse en quelle qualité? Enfin, je trouve que c'était une figure assez hybride, assez compliquée, qui est le symbole d'une forme d'ingérence de la France dans les affaires politiques intérieures africaines. J'ai toujours trouvé que le président français, s'il doit adresser un discours sur l'Afrique, il doit d'abord l'adresser aux Français, parce que c'est les Français qui l'ont élu, et c'est finalement devant les Français qu'il est comptable. Emmanuel Macron a beaucoup été critiqué quand il a fait le sommet de Montpellier, le sommet France-Afrique ou Afrique-France, comme il disait, parce qu'il avait fait le choix d'instaurer un dialogue direct avec ce qu'il appelait la société civile africaine. Et là, on note que c'est comme s'il avait pris acte de cette critique, comme s'il avait pris acte aussi de la critique adressée à ses prédécesseurs. Il a fait un discours depuis l'Élysée, un discours qui était adressé à des Français de la diaspora. Donc, je pense que la figure du président français qui fait un discours à Ouaga ou à Dakar est rompue du point de vue formel, du point de vue du dispositif. Et ça, ça participe. En tout cas, je pense que c'est l'esquisse d'une sorte de replacement de la question de la politique africaine de la France dans le champ politique français. Parce que fondamentalement, ce que la France fait en Afrique, il le fait au nom, enfin, d'une puissance qui est la France, etc., est redevable d'abord à l'opinion publique française et redevable au peuple français qui ont élu Emmanuel Macron. Donc ça, c'est un changement notable, c'est une rupture. Maintenant, est-ce que cette rupture va aller jusqu'au bout, hein? Ça, ça faut attendre de voir. Parce que on a quand même eu souvent avec le président français un pas en avant, un pas en arrière. Par exemple, sur la question mémorielle, moi, je fais partie des gens qui ont toujours considéré que il ouvre de vraies brèches. Le rapport fait l'UNSAR sur la restitution, alors que le président précédent, François Hollande, et son premier ministre, Jean-Marc Ayrault, refusaient totalement d'ouvrir le dossier. C'est quand même le président Emmanuel Macron qui s'attaque à la question du franc CFA ouvertement, en assumant le débat. La question du génocide rwandais, le rapport du Clarisse, c'est lui qui ouvre la brèche malgré les critiques. Donc, sur un certain nombre de questions, comme les questions mémorielles, comme les questions post-coloniales enfin, en tout cas lié à la mémoire postcoloniale, à chaque fois il ouvre de brèves brèches, mais toute la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ces brèches. Par exemple, si vous prenez la question des restitutions, malgré le rapport Feldwinsar et Bénédicte Savoie qui marquait un tournant en termes de propositions, en termes de constats, les résistances semblent prendre le dessus parce que le processus de restitution est tellement faible par rapport à la réalité de ce que ça devrait être que quelque part on se dit tout ça pour ça. Voilà ce que je pouvais dire dans un premier temps et puis bon, le reste au fil de l'échange. Alors tiens, je voulais préciser une chose que je fais quelque temps. On a beaucoup entendu que cette tournée aussi c'était pour contrer le sentiment anti-français et les Russes. Moi, je suis assez dubitatif, en fait, parce que je le dis toujours, je ne vois pas de sentiment anti-français en Afrique. Donc, de quoi on parle? On parle quand même de quelque chose qui existe et que je vois. Par contre, il y a une contestation de plus en plus forte de la politique française en Afrique. Ça existe. Et ça n'a rien du sentiment. C'est un processus qui a été enclenché depuis des années et qui, à un moment donné, a été amplifié par des tournants précis. Moi, je pense que ces 20 dernières années, la France a beaucoup maltraité les jeunesses africaines. Quand je dis elle a beaucoup maltraité, les jeunesses africaines, c'est quoi? C'est les restrictions sur la mobilité des jeunes africains pour aller étudier en France. Tout jeune africain, en tout cas, a connu quelqu'un ou vécu les longues humiliations dans les ambassades, etc. C'est les tentatives de réécriture de l'histoire coloniale, la tentative de loi sur les bienfaits de la colonisation. C'est le discours de Dakar. C'est encore une fois les frais d'inscription qui augmentent. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses, sans compter les ingérences ces dernières années, quoi qu'on puisse dire, il y a eu des ingérences, parce qu'on parle beaucoup de la question de la présence militaire. Mais c'est pas une présence militaire passive, en fait. C'est-à-dire, ces dernières années, la France est entrée en guerre, mais des guerres d'ingérence, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, la Libye, le Tchad en 2008, où quand même c'est les forces françaises qui sauve le régime de Déby en 2011, 2012, c'est eux qui font pencher la balance du côté du président Alassane Ouattara, la Libye, même chose. Donc, je pense que ces interventions dans des contextes politiques intérieurs laissent aussi des traces. Donc, les interventions armées, militaires, ont aussi participer à une forme de prise de conscience, à une forme de rejet, de toute forme d'ingérence. Encore une fois, ici, soyons d'accord. La question, c'est pas est-ce que Gbagbo avait raison, est-ce que Kadhafi avait tort, est-ce que Déby avait ceci, cela. La question, c'est la question du point de vue principiel. Est-ce que la France peut militairement engager son armée sur des questions de politique intérieure? C'est ça la vraie question, au point de faire pencher la balance. Pourquoi, quelle est la légitimité de la France pour maintenir au Tchad Idriss Déby, dont on sait notoirement que c'est un dictateur et pas un démocrate? Quelle est la légitimité pour la France d'user de la force en Côte d'Ivoire sur un contentieux électoral, quoi qu'on puisse penser de Gbagbo, certes, qui n'est pas un saint? Quelle est la légitimité de la France à arbitrer militairement une question, un conflit post-électoral? En plus, la France le fait en dépit du désaccord de l'Union africaine. Même chose sur la Libye. On peut tout dire de Kadhafi, etc. C'est un dictateur, tout ça. Mais en dépit quand même du refus de l'Union africaine, il y a une intervention militaire qui est déclenchée. Donc, ce type d'action militaire, d'action armée, je pense, a beaucoup participé à une forme de prise de conscience de la jeunesse, prise de conscience politique. Nous ne voulons plus d'intervention d'armée extérieure, quelle que puisse être d'ailleurs l'armée. Et je pense que tous les événements que je décris, c'est des événements qui ne datent pas du siècle dernier, c'est des événements récents. Et cet ensemble de choses aujourd'hui se traduit par un sentiment de ras-le-bol, par un sentiment d'une radicalisation de la contestation, mais une contestation qui est politique et argumentée. Donc, parler de sentiment anti-français relève toujours de cette posture assez infantilisante qui est de minorer de vrais problèmes. De vrais problèmes. Quand les Africains sont fâchés, c'est de l'ordre forcément de l'émotion et du sentiment. Non, c'est des questions politiques qu'une partie de l'opinion publique africaine adresse à la France. Maintenant, on peut contester les formes d'expression, on peut les trouver violentes, etc. Ça se discute. Mais d'entrée de jeu, dire que c'est juste un sentiment disqualifie même le fond de cette colère.
Très bien, merci Ousmane. Thierry, je vais vous donner la parole. Donc Ousmane dit pas, il n'y a pas de sentiment anti-français, mais une contestation de la politique française en Afrique. Et la nuance, comment vous voyez les choses et comment vous voyez ça à l'aune du voyage que vient d'effectuer Emmanuel Macron?
Ben, je suis tout à fait d'accord avec cette définition. Je crois qu'en effet, il ne faut pas... On emploie les termes sentiment anti-français, on emploie les termes francophobie des fois, alors que justement, ce qu'on voit pour le moment, c'est essentiellement une contestation de la politique étrangère française. Que cette contestation ne se transforme pas à un moment en sentiment anti-français, on verra, l'avenir nous le dira, et ça, il y a un point d'interrogation. Et je pense que dans certains pays comme le Burkina Faso, par exemple, on verra dans quelques temps si les Français qui sont installés au Burkina Faso peuvent rester ou non, ou si ça se transformera pas en certains débordements. Idem au Mali, on verra, l'avenir nous dira si les Français qui sont installés là-bas à un moment ne devront pas faire leur valise rapidement. Ça, je pense qu'il ne faut pas préjuger de l'avenir, il ne faut pas préjuger de la transformation non plus de cette critique en un certain nombre de ressentiment très très fort. Et donc en effet, ce qu'on voit actuellement, c'est une contestation de la politique étrangère de la France en Afrique, qui pour moi, qui suis un vieillard maintenant, hein, je veux dire, je suis un peu blanc, comme vous voyez là, etc. Ça fait longtemps que je me promène en Afrique, n'est pas si nouvelle que ça. Il y a eu d'autres moments de forte contestation de la France en Afrique, hein, que ce soit dans les années 60, après les indépendances, pendant et après les indépendances, que ça soit aussi à d'autres moments plus spécifiques dans les années 90, où dans certains pays l'ambiance politique était assez tendue. Donc je relativiserai un peu la nouveauté, si je puis dire, de ce qui se passe actuellement, mais il est clair qu'il y a une contestation de la politique étrangère de la France qui porte sur les thèmes dont parlait Ousmane, c'est-à-dire la tradition expéditionnaire, sur la question du franc CFA, sur les restitutions, bon, encore que les restitutions, moi je me promène beaucoup dans l'Afrique rurale, ça les concerne, ça leur parle pas beaucoup. Bon, des choses comme ça, mais moi ce qui m'interpelle un peu dans la situation actuelle, et à l'IFRI on est en train de travailler là-dessus en ce moment, c'est surtout, c'est pas tant que la politique française soit contestée. Comme je le dis, si on fait l'histoire depuis 1960 des relations entre la France et l'Afrique, il y a eu quand même plusieurs épisodes de contestation. Ce qui m'interpelle, c'est plutôt pourquoi est-ce qu'elle est contestée maintenant, et qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut l'interpréter. Je pense qu'il y a plein de façons de l'interpréter. Alors évidemment, on peut dire, les questions, la succession d'interventions militaires qui ont eu lieu, que Ousmane a bien résumé, qui, en effet, problématique ou plus ou moins problématique, ça dépend au cas par cas, il faut les voir dans leur complexité, si je puis dire, surtout quand l'armée française est appelée par les gouvernants qui sont en place, hein, quand même le rappeler dans un certain nombre de cas. Mais surtout, c'est la question de qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, rend en effet la politique de la France en Afrique particulièrement inacceptable à une opinion publique africaine. Et donc, à l'IFRI, on est en train de travailler sur le sujet, donc on n'a pas de réponse. Là, j'ai plus des questions que des réponses, hein, et de se demander qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors évidemment, il y a toutes les erreurs et les faux pas de la politique étrangère française qu'on connaît bien, mais j'aurais tendance à dire qu'elle n'était pas plus intelligente dans les années 80 qu'actuellement. Je voudrais pas, parce qu'il y a des gens qui aiment à dire que la raison pour laquelle la politique étrangère de la France en Afrique passe mal en ce moment, c'est parce qu'elle est faite par des gens qui sont beaucoup moins intelligents que par le passé. C'est une interprétation. Mais je ne suis pas sûr. Par contre, je vois qu'il y a quand même des choses, on a des pistes d'interprétation. Par exemple, et Ousmane le disait, on voit que c'est surtout la jeunesse qui est mobilisée contre la politique française et particulièrement la jeunesse urbaine. Donc, il y a en effet derrière une question de politisation de cette jeunesse, du fait qu'en effet, il y a aussi un phénomène d'urbanisation croissant en Afrique. Et donc, urbanisation, politisation, tout ça sont des choses qui résonnent, et mobilisation politique, c'est des choses qui résonnent ensemble. Il y a aussi la question de l'expansion considérable et très rapide des réseaux sociaux en Afrique, avec une pénétration de la téléphonie mobile, une généralisation de la téléphonie mobile qui a ouvert des espaces de contestation nouveaux, en quelque sorte, dans tous les pays en tout cas, et qui sont en effet une nouvelle façon de communiquer et aussi, comme je le disais, une nouvelle façon de protester et de contester. Peut-être une érosion de la France-Afrique, alors que moi je définis non pas comme étant tous les liens entre la France et l'Afrique, mais comme étant le système d'alliance qu'il y avait entre les dirigeants français et les dirigeants africains, qui était basé sur un échange grosso modo qui était sécurité contre financement, notamment financement politique à Paris. Et donc, l'érosion quand même de système avec un renouvellement générationnel du côté africain et du côté français, des deux côtés, où les générations qui ont créé la France-Afrique et ce système politico-sécurito-financier ont fini par passer la main et céder la place à d'autres. Peut-être aussi le fait que l'appareil aussi sécuritaire de ces États et répressif de ces États se soit affaibli, parce que là aussi, je disais, la contestation de la politique étrangère en Afrique, ce n'est pas une nouveauté, mais je pense qu'à une époque, cette contestation était beaucoup plus difficile. Alors là aussi, je reviens aux réseaux sociaux, mais même avant les réseaux sociaux, mais même aux réseaux sociaux, et à une époque, les régimes étaient beaucoup plus répressifs l'expression des mécontentement, en tout cas des divergences de pensée étaient beaucoup moins simples en Afrique. Peut-être aussi la question de la situation sociale et économique d'un certain nombre de pays africains qui, dans certains cas, sont quand même sur une trajectoire assez catastrophique et qui, du coup, ont besoin de responsables. Et dans ce cas, la politique étrangère de la France est un responsable tout trouvé on dirige un certain nombre de mécontentements vers cet objet qui est en effet idéal pour ça à cause des nombreux faux pas et des erreurs qui ont été faites par les gouvernants français. Et puis, par exemple, je veux juste vous donner un exemple de ça parce que je pense que c'est assez intéressant. Ousmane parlait d'un grand ami de Paris qui était le président Idriss Déby. Il ne faut pas oublier que le grand ami de Paris, le président Idriss Déby, avait fait une interview en 2016 ou 2017 devant des journalistes français ébahis, où il leur avait expliqué que s'il restait au pouvoir, c'était parce que Paris avait modifié la constitution tchadienne dans son dos. Alors, ça a été un grand moment de télévision, cette interview, que les journalistes en étaient ébahis. Et je l'ai regardé il y a quelques temps, c'était vraiment spectaculaire. Le président Déby a dit « Ah ben voilà, il y a un constitutionnaliste français qui est venu, et puis il a parlé à des gens, et puis le lendemain, la constitution avait changé. » Donc voilà, tout ça pour dire que même nos plus grands amis ont su orienter le mécontentement de leur population vers la politique française et vers Paris. Voilà, donc c'est surtout des pistes avec des points d'interrogation, hein, de savoir qu'est-ce que ça veut dire en fait que la politique étrangère de la France en Afrique soit contestée en ce moment. C'est évidemment le résultat de nombreuses erreurs et de nombreux faux pas, et les questions militaires ont joué leur rôle, économique, etc. aussi. Mais en même temps, je pense qu'il y a des explications aussi plus dans la profondeur de ce qui se passe en Afrique, et qu'il faut regarder ça un peu dans son substrat sociologique aussi, pas seulement sous un angle politique en disant voilà, c'est la politique, etc., mais il faut aussi regarder ça dans son substrat sociologique. Et en effet, Ousmane mentionnait par exemple le fait que les jeunes ne peuvent plus avoir de visa, etc. Bien sûr, ça joue un rôle, et c'est ça qui me paraît important sur un plan sociologique, c'est que cette réflexion met en évidence aussi la dimension sociologique de ce ressentiment et de cette contestation, c'est-à-dire que pour une classe particulière de la société africaine, il y a en effet cette question de l'accès à la France qui a été maintenant fermée, ou plus ou moins fermée. Mais enfin, c'est aussi vrai pour les autres, hein, c'est pas simplement pour les pays africains, c'est pour les pays arabes et beaucoup d'autres pays. En effet, il y a là une coupure, si je puis dire, d'un accès et d'une relation qui existait avant, etc. Et donc, c'est ça c'est proprement sociologique, à mon sens, ce politique. Voilà, la question générationnelle, elle est aussi sociologique, hein, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, la génération qui a forgé la France-Afrique des deux côtés de la Méditerranée, elle n'est plus au pouvoir, elle est morte, même, des fois pour certains. Et donc maintenant, il y a d'autres générations des deux côtés de la Méditerranée. Et là aussi, le renouvellement générationnel fait qu'un certain nombre de liens et de dialogues se sont distendus et que parfois le dialogue devient un peu plus compliqué. Voilà, c'est juste des pistes de réflexion comme ça que je lance pour la discussion.
Ousmane, vous voulez réagir ?
Non, je voulais rajouter une piste qu'il ne faut pas oublier. Je trouve qu'aussi chez les dirigeants et les élites africaines installées en place, cette contestation est devenue une rente. C'est-à-dire, je trouve que c'est plus facile d'expliquer l'échec de certains régimes, notamment militaires, par le fait d'un discours aux allures complotistes. C'est la France qui veut pas qu'on se développe, c'est la France qui nous enchaîne. On entend beaucoup ce type de discours, même si il peut y avoir un fond de vérité dans les rapports de force, dans les rapports économiques, dans les termes de l'échange, mais il y a une forme de discours de déresponsabilisation des élites gouvernantes africaines qui profitent de cette forme de brèche, parce qu'à tous les coups, très populaire, c'est-à-dire ça permet d'inventer une forme de figure extérieure qui absolument va empêcher le développement du continent, même si encore une fois c'est plus compliqué que ça, parce que dans les mécanismes en cours, il y a des mécanismes de domination économique qui ont pu par moments retarder le développement de l'Afrique. Il y a des décisions très contestables du point de vue historique. Moi je trouve que la dévaluation de 94 est un moment important de cette domination économique, parce que les pays africains ne sont pas d'accord. On a le président Abdou Diouf qui fait une interview à Paris, qui dit tant qu'il sera au pouvoir, on dévaluera jamais. Le président Boufet Boigny dit la même chose, etc. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, que c'est la Paris qui les force à dévaluer de 50% la monnaie de leur pays. C'est-à-dire, concrètement, dans la vie quotidienne de ces Africains-là, du jour au lendemain, coûte plus cher. Le sachet de lait coûtait plus cher, etc. Et les salaires n'ont pas été augmentés. Donc, il peut y avoir des moments de domination, voilà, qu'on peut pointer du doigt. Maintenant, il y a aussi tout un discours d'une forme de domination qui n'est pas clairement établie, qui voudrait que, par exemple, les Français seraient au Mali parce qu'ils profiteraient de la ressource, des ressources du Mali, etc., qui ne sont étayées par rien. Donc, je pense que l'instrumentalisation de la question française dans la politique intérieure est un élément très important. Aujourd'hui, vous allez voir un pays comme le Sénégal, la figure de l'opposition qui émerge s'est beaucoup appuyée sur le rejet de la France comme discours politique. Et que en Afrique aujourd'hui, c'est rentable en fait pour un homme politique. C'est à moindre frais taper sur la France et faire une forme de popularité tout en une piste qu'il faut mettre dans le panier.
Si je peux juste qui est tout à fait contemporain, et parce que ça concerne la RDC. Et le président y a été, là, c'est un moment un peu compliqué. La crise du M23, dont vous êtes au courant dans l'est du Congo, donc avec l'armée rwandaise qui est derrière ce mouvement du M23, l'armée congolaise, évidemment, n'est pas dans une bonne posture depuis le début et est en train n'est pas en capacité de repousser le M23 et ni l'armée rwandaise qui est derrière elle. Donc à partir de fin octobre, début novembre de l'année dernière, on a vu apparaître sur les réseaux sociaux toute une campagne visant la France et l'Union européenne, disant voilà, c'est de leur faute si l'armée congolaise peut pas se battre parce qu'il y a un embargo onusien et il y a un embargo onusien, c'est de leur faute, etc. etc. Ce qui est complètement faux. Parce que l'embargo onusien, il concerne pas l'armée congolaise, il concerne les groupes armés dans l'est du Congo, mais qui était très relayé au Congo, précisément parce que ça permettait aux autorités d'expliquer pourquoi l'armée congolaise n'est pas de taille sur le terrain. Et l'armée congolaise n'est pas de taille sur le terrain, essentiellement parce que la gouvernance de l'armée congolaise est ce qu'elle est. Et donc, elle ne sera jamais taille sur le terrain tant que cette gouvernance ne changera pas. Mais il faut trouver une excuse à ça, et du coup, de ce point de vue-là, on se dirige vers la France et vers l'Union européenne en disant c'est leur faute, alors que l'armée congolaise est une armée extrêmement corrompue, dont plus le gouvernement injecte de l'argent dedans, plus il s'évapore. Et donc, en effet, elle n'est pas en mesure de se battre et de résister au M23, mais il faut bien que les gouvernants expliquent et défaussent de leur responsabilité sécuritaire en disant « c'est la faute des autres si on ne peut pas se battre sur le terrain et si on ne peut pas gagner ». Voilà, je m'arrêterai là.
Merci. Je vais peut-être passer la parole à Virginie ou à Bola, savoir lequel des deux veut intervenir.
Merci pour la parole. Moi, je vais me concentrer sur les relations franco-burkinabées d'hier et d'aujourd'hui. Alors, pour commencer, je précise que la politique n'est vraiment pas mon domaine et que cette question pluridimensionnelle fait appel à l'histoire, à l'anthropologie sociale et surtout à la géopolitique. La question des relations franco-burkinabées mérite d'être posée. Disons qu'elle arrive à point nommé car la crise diplomatique en cours est sans précédent entre ces deux pays. Ainsi, ce que je vais vous partager, c'est vraiment une modeste contribution pour aider les uns et les autres à mener une réflexion, peut-être plus poussée, à penser autrement les relations de France-Afrique et surtout à distinguer ce qui relève de la propagande ou de la réalité. Je vous prie donc de m'accorder votre indulgence en cas d'insatisfaction. Alors, notre propos sera décliné en quatre temps. D'abord, un bref aperçu historique des relations franco-burkinabées. Ensuite, la genèse de la crise bilatérale actuelle. Puis, le rôle joué par l'instabilité politique et le terrorisme dans cette tension diplomatique. Et enfin, les perspectives d'avenir pour un climat apaisé. Le premier point, l'histoire. J'ai vu le jour en 1989 au Burkina Faso, ancienne Haute-Volta, et je vis en France depuis 4 ans et demi. Le Burkina Faso, comme beaucoup d'États africains, est entré dans le giron français suite à la conférence de Berlin de 1885. En 1896, il devient protectorat français. Et durant la période coloniale, les États colonisés étaient pourvoyeurs de richesses de matières premières pour faire tourner l'économie des métropoles européennes. Le Burkina Faso devint une colonie proprement dite en 1919. Pour des raisons de gestion coloniale, le 5 septembre 1932, la colonie est dissoute et le pays sera partagé entre ses trois voisins, la Côte d'Ivoire, le Niger et puis le Mali. La réunification n'interviendra qu'après la Deuxième Guerre mondiale, soit le 4 septembre 1947. Après sa réunification, elle accède à une indépendance le 4-5 août 1960. Et en 1984, la Haute-Volta est renommée en Burkina Faso par le président Thomas Sankara. Burkina Faso, du Moré Burkina qui signifie intègre, et du Dioula Faso qui signifie patrie. Du coup, ce sont deux langues du pays. Le deuxième point, la genèse de crise bilatérale actuelle. La détérioration récente des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France exige quelques nuances, car le Burkina Faso a toujours entretenu de très bonnes relations avec la France. En effet, la France demeure le premier partenaire militaire et économique de ce pays. Aussi, nous héritons de son système éducatif, administratif, judiciaire. La France finance de nombreux projets de développement et humanitaire. La coopération française est la plus massive et la plus présente à travers de nombreux programmes. De nombreux villages burkinabés sont jumelés à des villes françaises et les échanges sont fructueux et enrichissants. La France reste la deuxième destination des Burkinabés après la Côte d'Ivoire et jusqu'à la chute du président Blaise Compaoré en 2014, le Burkina Faso était cité comme bon élève, il n'y avait pas d'attaque terroriste. Troisième point, le rôle joué par l'instabilité politique et le terrorisme dans cette tension diplomatique. Avec la mondialisation, nous vivons dans un contexte géopolitique très mouvementé, tant au niveau national qu'international. Il existe alors des causes lointaines de la crise actuelle franco-burkinabé. Il nous semble que trois raisons pourraient expliquer la crise actuelle. Nous avons la géopolitique internationale, la crise politique au Burkina Faso et le terrorisme. Concernant la géopolitique internationale, si le 11 septembre 2001 marque le début du terrorisme international, le printemps arabe, surtout avec la mort du président libyen Kadhafi, la crise libyenne a transformé irrémédiablement la géopolitique mondiale. Et parlant de l'instabilité politique, la chute de Blaise Compaoré en 2014 marque le début de l'instabilité politique, suivie des premières attaques terroristes au nord et en 2016 à Ouagadougou, dans la capitale. Et depuis, il y a eu au moins 4 coups d'État en 9 ans. La France propose alors son aide militaire au Burkina Faso afin de venir à bout de ce fléau. Elle sera ensuite accusée de ne pas en faire assez malgré son équipement sophistiqué, puisque dans ce pays victime de terrorisme, les situations sécuritaires, sociales et économiques devenaient de plus en plus très instables et surtout alarmantes. Le terrorisme au Sahel et au Burkina, il y a des récriminations envers la France et ces récriminations se basent principalement sur l'ingérence dans la politique intérieure. Les nouvelles autorités demandent alors la diversification des partenaires russes, turcs, chinois, etc. En revanche, il est clair qu'une autocritique pourrait se faire en ce qui concerne le Burkina Faso lui-même, car nous ne pouvons pas non plus omettre la responsabilité nationale et interne dans cette crise. Pour aller rapidement au quatrième point, les perspectives d'avenir pour un climat apaisé entre les deux pays, frères. Lors de nombreuses manifestations pacifiques qui ont suivi le coup d'État du 30 septembre 2022, la situation s'est vraiment dégradée. L'ambassade de France et les deux instituts français de Ouagadougou et de Bobo ont été attaqués et pour la première fois, les manifestants avaient des drapeaux russes et réclamaient le départ de l'armée française. Étant donné que tout est mêlé ou même entremêlé, je me pose la question, quel est le véritable problème? Justement, ne faisons pas d'amalgame concernant la rupture. Il s'agit de la coopération militaire entre le Burkina et la France, ainsi que la demande de changement de l'ambassadeur français, M. Luc Alat, ce qui ne signifie pas une rupture diplomatique. L'accord militaire de 1961 entre le Burkina et la France n'était plus tenable aujourd'hui et apparemment est en défaveur du Burkina Faso. L'armée française a perdu une cinquantaine d'hommes dans le Sahel en luttant contre le terrorisme et le Burkina en a perdu beaucoup aussi. Ce conflit ne peut qu'être qu'en défaveur des deux pays. Le contrat de 1961 était obsolète et on peut envisager de nouvelles bases de négociations en privilégiant le partenariat gagnant-gagnant, par exemple, du point de vue militaire, économique et social. Je remarque que l'affaire est plus politique que sociale. Les deux populations, françaises et burkinabées, restent amies. Et en conclusion, je pourrais dire que le terrorisme est au cœur de la tension diplomatique entre le Burkina et la France. Il ne faudrait pas que cette tension soit une aubaine pour la recrudescence du terrorisme au Sahel. Puisque les deux pays, France et Burkina, développaient un nouveau partenariat d'égal à égal et combattre ensemble le terrorisme djihadiste qui représente une vraie menace contre tout pays. Je vous remercie.
Est-ce que Thierry ou Ousmane veulent réagir?
Alors, beaucoup de choses ont été dites. Moi, ce qui me frappe, c'est la conclusion. C'est bien qu'il est très nuancé, et je pense qu'il faut pas, il faut être nuancé, il faut pas avoir de certitude dans l'histoire en cours. Mais sur les accords de défense, j'aimerais quand même rappeler une chose, parce que ça pose la question, elle pose la question de l'équité des accords de défense. Je pense que fondamentalement, ces accords ne peuvent pas être équitables, parce qu'il s'agit de quoi finalement ces accords de défense? C'est-à-dire on délègue des attributs de la souveraineté à l'ex-puissance coloniale. Et ça pose une autre question de fond, c'est que pour moi, la question du terrorisme, l'arrivée du terrorisme au Sahel est un révélateur. Mais les ingrédients qui ont fait que les États ont périclité rapidement, ils étaient là. C'est-à-dire, on se rend compte qu'autant au Mali qu'au Burkina, avec l'arrivée du défi terroriste, que les armées n'étaient pas des armées viables. Qu'on n'a pas, qu'en 60 ans d'indépendance, les pays africains n'ont pas, en tout cas, sur le cas du Mali comme du Burkina, il n'y a pas eu, ces États ont été incapables de construire une politique de sécurité, de construire une armée réellement nationale. Il faut dire qu'avant même l'arrivée du terrorisme dans le nord du Burkina, l'armée était très, très divisée. On a vu la RSP exploser. On a vu, enfin, avant l'arrivée du terrorisme, une série de mutineries. Donc, je pense que le schéma même qui veuille que la France vienne régler la question sécuritaire au Burkina, au Mali, est un schéma problématique. Je comprends qu'on puisse reprocher à la France, comme elle dit, avec des armes sophistiquées, avec une armée qui fait partie des armées les plus puissantes au monde, qu'elle n'arrive pas à bout du terrorisme. Mais il faut toujours reposer une question très simple. Est-ce le rôle de la France? C'est-à-dire, dans cette histoire, tout le monde a tort. La France a toujours continué, malgré les indépendances, à vouloir jouer un rôle militaire en Afrique, ce qui n'était pas normal. Les Africains aussi se sont installés dans cette forme de garantie tout sécuritaire. Tout le monde sait aujourd'hui, on sait assez bien que les accords de défense étaient aussi faits pour protéger les régimes en place souvent. C'est-à-dire, la plupart des interventions de l'armée française, le président qui était en place était menacé, ils invoquent les accords de défense pour venir dire à l'armée française, protégez-moi. Donc, je pense que, et quand vous prenez l'accord du Burkina, elle date de 1960 et personne ne l'a remise en cause. Donc, il y a une forme de confort qui s'est installée et que la question terroriste qui arrive est un révélateur de ces formes de distorsion de l'État, de ces formes de choses assez étranges. Je trouve toujours étrange que 60 ans après les indépendances, qu'un pays reproche à la France de ne pas faire la guerre correctement dans son pays, de ne pas l'aider. Au fond, ça pose... Maintenant, il y a aussi la responsabilité de la France qui a maintenu cette forme de garantie militaire dans des conditions, encore une fois, plus que discutables. Mais non, je pense que le Burkina a une particularité, il faudrait le souligner. Il y a quand même... c'est le pays de Sankara, disons. Il y a une parenthèse historique où le Burkina a quand même incarné l'anti-impérialisme en Afrique. Et que ça, et que je trouve que c'est pas un hasard si c'est à Ouaga que que Emmanuel Macron a ce discours avec cette rhétorique, avec cette forme de avec ce déploiement du discours. Je pense que, et ça aussi je plaide toujours, c'est très important. On dit toujours relation Afrique-France. Moi, je dis toujours que la relation avec le Gabon n'est pas la même avec le Burkina. La relation avec le Sénégal n'est pas la même. Même si on trouve des fondamentaux, je pense que une des choses dans laquelle il faut sortir, c'est cette lecture-là globalisante, c'est-à-dire un continent et la France. C'est-à-dire le Burkina a des relations un peu singulières avec la France. Le Mali, c'est pas le cas, parce que le Mali, de 68 à 94, est dans le bloc de l'Est. Les élites étaient tournées vers la Russie, etc. Donc aujourd'hui que le Mali réemprunte cette trajectoire, il y a quand même des logiques. Ce qui n'est pas le cas du Gabon. Donc voilà, je pense qu'aussi, il y a une diversité de types de relations que la France a établies.
Thierry, vous voulez réagir?
Oui, plusieurs choses. Premièrement, il y a quand même une historicité des relations, de la relation sécuritaire. Et elle n'est pas la même en 2023 qu'en 1960 quand même. Premièrement, les accords de sécurité, ils ont été revisités à plusieurs reprises, et notamment à l'époque de Sarkozy, où ils ont été modifiés dans un certain sens. Il faut quand même se rappeler, je vous donne un peu le cadrage historique, c'est que en 1960, quand ces accords sont passés, en effet, ils visent à sécuriser les nouveaux présidents, etc., et établir une relation sécuritaire avec Paris. Et que pendant longtemps, en effet, cette sécurité est comprise comme étant une sécurité intérieure. C'est-à-dire que c'est contre des mouvements d'opposition ou des tentatives de putsch, etc. Il s'agit de sécuriser les présidents, d'où les gardes présidentielles qui sont mises en place spécialement pour ça. Quand les accords ont été révisés, Paris a enlevé cette dimension de sécurité intérieure et a dit qu'il n'y aura des interventions que pour des problèmes de menaces extérieures. L'époque où, par exemple, quand au début des années 90, quand il y a eu la tentative de démocratisation au Gabon et que il y a eu des manifestations assez virulentes au Gabon contre le président Bongo et qu'on a fait sortir l'armée française pour justement contenir ces manifestants, est une situation qui maintenant, et pas maintenant, depuis un certain temps, est impossible. La Côte d'Ivoire étant un autre cas d'espèce, puisqu'il y avait une mission de maintien de la paix, etc. etc. En tout cas, des interventions contre des manifestants par l'armée française pour sauver un régime sont évidemment exclues par les accords de défense. Par ailleurs, je vous rappellerai quand même qu'en 1960, il y avait 30 000 militaires français en Afrique et qu'actuellement, il y en a 6 000. Donc, vous voyez aussi que l'histoire a suivi son chemin et qu'on est sur le plan militaire. On n'est pas sur une dynamique d'engagement, mais on est sur une dynamique historique de désengagement. Sur le Burkina Faso, qui me frappe, c'est que on est maintenant dans une dynamique avec le deuxième putsch et le fait que le capitaine Traoré succède au colonel Damiba, on est maintenant dans une vraie dynamique malienne. La remise en cause de la présence des militaires français comme au Mali, après la remise en cause de l'accord sécuritaire aussi comme au Mali. Enfin, on sent bien, et on a vu les échanges qui ont eu lieu entre Ouaga et Bamako, on sent bien qu'il y a une inspiration malienne derrière ça, et que les uns marchent dans les pas des autres, et que bientôt, on va voir arriver Wagner au Burkina Faso. Ça, c'est pas une certitude, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Voilà, on est sur cette dynamique, et on n'est pas sur une dynamique où, ah oui, il va y avoir, on peut repartir sur un autre pied. On n'est pas en train de repartir sur un autre pied. On est en train de se séparer, et le Burkina Faso est en train de suivre la voie malienne des choses. Et il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, qui ne sont pas publiques, comme par exemple l'interception de la valise diplomatique française. Voilà, il y a des choses qui sont sous le radar, mais qui montrent à quel point les relations sont maintenant détériorées et vont être problématiques. Voilà, après, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Ousmane, c'est-à-dire que, et malheureusement, je crois qu'on va rester dans cette logique d'extraversion, c'est-à-dire que les dirigeants africains n'ont pas bâti, de même qu'ils n'ont pas fait beaucoup de développement, ils n'ont pas bâti des appareils sécuritaires autonomes et capables de fonctionner seuls. Et ce que je vois, c'est que le départ de la France de ce secteur, premièrement, ça ne date pas simplement de maintenant, hein, c'est des choses qui sont passées ailleurs. Et il a raison de parler différents de relations individualisées, si je puis dire, entre Paris et les capitales, y compris au plan sécuritaire, parce que au lieu que les dirigeants africains qui sont contents, plus ou moins contents de se débarrasser de Paris, remettent de l'ordre dans leur armée, essayent de la discipliner et d'éviter qu'elle ne soit rongée par la corruption, ils vont chercher d'autres fournisseurs de sécurité à l'extérieur du continent. Et donc, c'est pour ça qu'on voit des Israéliens un peu partout en Afrique. C'est pour ça qu'on voit aussi maintenant des Russes, évidemment, mais on voit des Turcs, on voit d'autres pays, etc., qui sont appelés à la rescousse sur le plan sécuritaire et qui montrent qu'on va rester dans la bonne vieille logique du fournisseur de sécurité extérieure pour se protéger. Et on ne va pas aller vers le sens d'un souverainisme sécuritaire qui est un chemin beaucoup plus compliqué et difficile. Juste un point, parce que je viens d'employer le terme de souverainisme, et ça me fait penser à quelque chose sur cette question de l'interprétation de ce qui se passe actuellement, de la contestation de la politique étrangère française. Je trouve qu'il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de thèmes et de points de vue en Afrique qu'on entend aussi beaucoup en France. Et je pense qu'il y a quand même, par exemple, le souverainisme. Ça, je parlais de souverainisme, mais le souverainisme dont on entend beaucoup parler aussi en France, c'est un peu une vague ou une mode. Je ne sais pas s'il faut dire une vague ou une mode, mais c'est une sorte de pensée à la mode, politique en tout cas à la mode, et qui circule sur la planète, etc., à droite et à gauche. Et donc, de même, on peut être souverainiste un peu partout. Il n'y a pas qu'au Front National qu'on peut être souverainiste. Voilà, je m'arrêterai là, mais je veux dire, il y a une circulation aussi des idées, et je pense qu'elle est intéressante à regarder.
Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Bollard, qui, lui, a une vision un peu décalée, parce qu'effectivement, vous venez d'un pays qui n'a pas été colonisé par la France.
Merci beaucoup. Voilà, donc je suis Bollard, étudiant ici en cycle de philosophie. Et je viens justement...
Parlez plus près du micro, parlez plus près du micro et pas trop fort, parce que ça résonne beaucoup.
Oh, désolé. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Ça va?
Changez peut-être de micro parce que ça...
Ah, c'est... Donc, bonsoir, je disais que...
C'est mieux, c'est mieux.
Voilà, je viens d'un pays, effectivement, qui n'a pas été colonisé par la France. Je viens du Burundi, un pays qui fut colonisé par l'Allemagne et puis par la Belgique. Je vous fais d'abord un petit témoignage. J'ai grandi dans un environnement familial, scolaire, social, dans lequel la relation avec l'Europe et particulièrement avec la Belgique était considérée positivement. Je ne me rappelle pas avoir entendu une seule fois des bribes de sentiments anti-belges au collège, même lorsqu'on abordait le thème de la colonisation. Encore moins dans la famille, où les parents, pour avoir passé un peu de temps en Europe, admiraient cette civilisation, entre guillemets. Voilà, mais cette paix-là, pour moi en tout cas, fut troublée en 2015, quand le président de la République annonça sa candidature pour un troisième mandat anticonstitutionnel, alors que le bilan de ces deux derniers mandats était très critiqué par une grande partie de la société civile. Après des manifestations pacifiques violemment réprimées par la police et une tentative de coup d'État qui échoua, le pouvoir en place revint en force en accusant la Belgique d'avoir orchestré une insurrection dans le pays. L'Union européenne et les États-Unis ont pris des sanctions contre certains responsables politiques et les responsables de la police. Après l'accaparement violent de l'espace public par le parti au pouvoir, on a assisté à la télévision et à la radio à un discours qui accablait la Belgique de tous les maux, les crises, les divisions survenues dans le pays depuis son indépendance. C'était en quelque sorte le sentiment anti-belge à la burundaise, bien qu'il n'eût vraiment été un sentiment populaire. C'était destiné, un message destiné à l'ancienne puissance colonisatrice. Des manifestations se sont déroulées, voilà, des manifestations maintenant orchestrées par le gouvernement, pour montrer à la face du monde le soutien de la population au pouvoir en place contre de prétendues ingérences de pays occidentaux et de la Belgique en particulier. Voilà. Tout cela était quand même bien construit, complètement artificiel, alors que des centaines de milliers de Burundais venaient de fuir le pays en raison de la peur, d'une peur de répression. Voilà. J'espère retourner dans mon pays en sécurité après avoir dit tout ça. Voilà. Voilà. La preuve en est que depuis 2 ans, alors que l'Union européenne a décidé de lever des sanctions et adopter une politique de rapprochement, revenant en arrière sur la rupture entamée, ce discours ne se fait plus entendre. On est face ici à une propagande qui cache mal ses intentions au profit d'un pouvoir qui se veut autoritaire. Voilà. Il me semble cependant, maintenant je vais aborder la question de la France, il me semble cependant que dans les pays anciennement colonisés par la France, la situation n'est pas tout à fait la même. Je vais donner ma vision des choses. Plusieurs choses peut-être ont été déjà dites. Voilà, je le dis sous le contrôle des deux spécialistes. La France-Afrique, ce système conçu théoriquement et mis en pratique dès la veille des indépendances, a fait son cours et a laissé quelques traces. On peut bien entendu espérer que les relations ont changé et qu'elles continuent de changer comme on l'a annoncé encore récemment. Il n'y a plus de précaris français. Voilà. Je trouve qu'il est éminemment important pour l'histoire, pour les générations futures françaises et africaines, que la France décide de voir la part sombre qu'elle a pu jouer, non pas seulement dans la colonisation, que la plupart des hommes de bonne volonté ont condamné depuis longtemps, bon, mais aussi lors de la décolonisation de certains pays. Voilà. Le président Emmanuel Macron a promis la création d'une commission d'historiens français et camerounais pour étudier entre autres, les archives datant de ce qu'on peut appeler la guerre du Cameroun. Voilà, des archives qui pourraient remettre en lumière la philosophie pernicieuse qui a inauguré les relations entre la France et ses anciennes colonies au lendemain de leurs indépendances. Cela est très positif à mon avis. Voilà. La France a déjà, par ailleurs, travaillé son rôle, sa non-assistance aux personnes en danger durant le génocide rwandais. Elle va ouvrir des archives aux historiens sur la guerre d'indépendance en Algérie. Tout cela est plus que symbolique. La France, je crois, si elle veut jouer un rôle dans une Afrique constamment en mutation, qui, malgré ses nombreuses maladies, sera, on peut l'espérer, avant et après tout, à la source des plus innovantes productions intellectuelles, technologiques et culturelles de demain, elle a ce devoir de regarder en face son histoire. Cependant, on le sait, les problèmes dans lesquels l'Afrique, en général, s'est engluée, la corruption, l'autoritarisme, le népotisme, bref, le recul de la démocratie, la surpopulation en grande précarité, etc., relèvent des Africains eux-mêmes. Et on ne peut que par un effet amnésique les reporter sur les autres. C'est le sens qui, à mon avis, il convient de donner à l'expression en vogue actuellement, l'Afrique aux Africains. On vient de parler de souverainisme. Voilà, l'Afrique aux Africains. Une expression que l'on a même entendue dans la bouche du pape François en visite en RDC le mois dernier. Bon, d'une manière heureuse. L'Afrique qui rêve de s'autodéterminer, voilà le pléonasme, voilà du pronom réflexif et du préfixe auto, il en dit long. Cette Afrique doit choisir par quels moyens le faire. Voilà, soit dans la déraison, ce que j'appelle la déraison, et sous l'influence de pays nostalgiques de leur âge de gloire, ou dans la sagesse, dans une prudence. Cette sagesse qui a caractérisé ces cultures qui ne sont pas simplement que des vestiges du passé. La première des révolutions urgentes n'est-elle pas celle des cultures, celle qui rétablit l'honneur, l'ordre et la dignité de la parole, des personnes, des biens, et qui est engagée, puisqu'elle est culture, à combattre l'injustice et l'inauthenticité. Peut-on accuser éternellement la France d'avoir investi des autocrates et supporter une fois de plus la restriction des libertés de la presse et le contrôle de l'espace public auquel on assiste dans plusieurs pays africains? Encore une fois, une guerre en Éthiopie vient de révéler ses ravages sans que l'Union africaine n'ait eu les moyens de l'empêcher. Ce qui se passe à l'est de la RDC tarde à s'arrêter. S'il faut rêver, rêvons grand, à la hauteur des attentes profondes de nos sociétés. L'Afrique doit choisir l'humanisme qui a inspiré les femmes et les hommes qui ont lutté pour les indépendances. Il est vrai que les dernières interventions militaires étrangères en Afrique et au Moyen-Orient n'ont pas abouti aux résultats escomptés. Pire encore, certaines, comme celle en Libye, on l'a dit, ont ouvert la voie au chaos. Il me semble d'ailleurs que cela a terni beaucoup l'image des puissances occidentales au-delà des pays concernés. Et jusqu'à aujourd'hui, on retrouve sur les réseaux sociaux des informations que l'on pourrait qualifier d'infotox qui se donnent la liberté de raconter tout et n'importe quoi. Ces informations sont crues par les populations, les jeunesses des pays africains. Et notamment parce que ces pays africains, les pays africains se sont sentis peu écoutés et consultés par les grandes puissances occidentales à divers moments de l'histoire contemporaine récente. Alors je termine en disant ceci, il reste néanmoins un fait, nous partageons encore beaucoup avec la France, avec l'Europe, plus que les événements récents nous le suggèrent, voilà, ne fût-ce que les langues, intellectuellement, idéologiquement, dans le bon sens du terme. L'histoire nous a réunis et nous appartient d'en tirer le meilleur pour construire le monde de demain, à la hauteur des défis qui nous attendent. Le changement climatique, l'éradication de la pauvreté, l'instauration des communs, le déplacement des populations, et pas seulement africaines, mais mondiales, et bien d'autres. Voilà. Merci.
Merci Bola. Une réaction de Ousmane et ou Thierry?
Oui, juste une
Thierry,
chose.
Ouais. Le Burundi que moi.
Non, juste une chose. Je rebondirai sur une phrase que vous avez eue. Vous avez dit la France a le devoir de regarder son histoire. Je crois que tout le monde a le devoir de regarder son histoire. Ça, la bonne formule. Parce que bon, cette question de mémoire, etc., est née dans la relation franco-algérienne, la question de ce qui s'est passé. Moi, ce qui me frappe quand même jusqu'à présent, c'est que je reste sur la question franco-algérienne. Autant le travail de mémoire sur la guerre d'Algérie, il est fait en France, autant il n'est pas fait en Algérie. C'est-à-dire que les historiens français et généralement les Français reconnaissent les tueries qui ont eu lieu en Algérie. C'est bien, moi, je suis pour la vérité historique, etc. J'attends que le FLN fasse la même chose pour les tueries qu'ils ont commis également. Voilà, donc je veux dire, pour reconnaître l'histoire, on est plusieurs à la faire. Et on est plusieurs à mal la faire, enfin, je veux dire, à faire des choses peu sympathiques dans l'histoire, et c'est bien que tout le monde le reconnaisse. Après, je note que sur la commission franco-camerounaise dont vous aviez parlé, des dames, des présidentes de la commission, là, a dit que, bon, sur, il n'y avait pas grand-chose à révéler, parce que beaucoup de choses sont déjà sues. Le fait que Mounier ait été tué par les services secrets français, c'est bien connu, etc. Et dit que, bon, dans les archives, on va les ouvrir, mais grosso modo, on va pas, il y a peu de chances qu'on apprenne des choses nouvelles, parce que cette histoire a déjà été faite par les historiens et déjà bien écrite. Donc, il y a aussi bon, des effets. Et pour connaître un petit peu le Cameroun, je peux vous dire que sur cette question-là, il n'y avait pas tellement d'appétit lorsque François Hollande a été là, au Cameroun et a été le premier d'ailleurs à dire « bon, on va ouvrir les archives ». C'était à l'époque de Hollande quand il a fait son déplacement au Cameroun. C'était pas vraiment une demande des autorités camerounaises. Parce que là aussi, je parle évidemment pour ceux qui connaissent le Cameroun, la question de l'UPC et de la guerre qui a eu lieu là-bas nécessite en effet que les Camerounais aussi regardent leur histoire. Parce que actuellement, il y a, et c'est évidemment contentieux au Cameroun, il y a chez les Bamileke l'idée qu'ils étaient tout l'UPC. Ce qui est évidemment contesté par d'autres, et notamment au point de l'idée que l'UPC était essentiellement Bamileke, se retrouve dans des formules que vous entendez au Cameroun, comme par exemple le génocide des Bamileke pendant la guerre de décolonisation. Bon, ce sont des expressions qui ne sont pas appréciées par tous les Camerounais. Donc, il faut quand même restituer l'histoire dans sa complexité, et tout le monde a le devoir de regarder son histoire.
Merci beaucoup. Je vais donner la parole à la salle, si j'ose dire, pour des questions, deux, trois questions très brèves et des réponses très brèves, s'il vous plaît. Vous pouvez vous présenter. On n'entend pas du tout ce que vous dites. Je ne sais pas si quelqu'un entend, mais moi, j'entends rien du tout.
C'est une question chaude. Jasko Walker, enchanté. J'ai étudié ici il y a 20 ans, pour des petites anecdotes, et j'ai eu un F dans mes cours jésuites universitaires américaines. F, ça fait raté, parce que je n'ai pas donné, je n'ai pas rendu mon papier, je ne savais pas structurer mon papier, donc je n'ai pas rendu. Et mon prof, elle avait 26 ans, elle n'était pas un vrai prof en fait, elle était notre accompagnatrice de McGill, et anglophone, en train de donner des cours en français. Et tout ça pour dire que mon papier, c'était sur les façades. Je voulais parler de l'Art Nouveau de 27 Avenue d'Europe et tous les symboles derrière. Depuis, j'ai travaillé dans l'énergie nucléaire, comme par hasard.
Est-ce que vous pouvez poser une question, s'il vous plaît?
Une banque africaine. Que pensez-vous d'une banque africaine après divorce, quand on a toute une famille sous tutelle curatelle, à partir de l'intérieur, pour que les ressources ne partent pas tout de suite à l'extérieur, au moins que les choses se font de la médiation de l'intérieur, en commençant par le continent, en utilisant les notions comme redlining.
Je ne comprends pas très bien quelle est la question. Je vais peut-être passer la parole à Kouyaya. Je vois qu'il y a une main qui est levée.
Oui.
Bon, une question rapide et une réponse rapide, s'il vous plaît.
D'accord, une question rapide. Au fait, je voudrais poser la question à Ousmane et Vincent. Que pensez-vous de l'émission de la France dans la création de la nouvelle monnaie éco que l'Afrique de l'Ouest, certains pays de l'Afrique de l'Ouest voulaient entamer? Et la deuxième question, c'est concerne l'achat des équipements militaires des pays africains sur le plan international. Je vais parler au conditionnel. J'aurais appris que les pays africains n'ont pas cette autorisation d'aller directement voir des partenaires, la Russie, la Chine, pour acheter eux-mêmes directement les armes dont ils ont besoin pour leur propre sécurité, qu'il faut passer forcément par la France d'abord, et parfois la France bloque. Que pensez-vous de cette situation? Je ne suis pas un spécialiste, mais c'est ce que j'apprends souvent à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Merci.
Ok, donc la monnaie est le
bel écran. Alors moi, sur le franc CFA, je fais une réponse simple. La France ne s'immisce pas, comme vous dites. La France était partie prenante. Elle l'est toujours. C'est même la France qui co-initie la réforme. Donc, il n'y a pas d'immixtion, il y a une continuité. Sur la France ou les partenaires qui interdiraient aux armées africaines d'acheter des équipements, ça m'étonnerait franchement, mais c'est tellement peu précis ce que vous dites que je ne peux pas vous faire une réponse précise, mais ce que je peux dire, c'est que ça m'étonnerait. Ça se dit beaucoup, mais moi jusqu'à présent, personne ne m'a démontré la preuve.
Ok, éventuellement.
Oui, sur cette question, moi, Monsieur Kouyaya, je serais tenté de vous demander d'où est-ce que vous avez entendu ce genre de choses, parce que quand on regarde les statistiques d'armement sur le continent, le premier fournisseur d'armes à l'Afrique, c'est la Russie. Il y a quasiment 50% du marché des armes, et la France est en 5e ou 6e position derrière d'autres acteurs, etc. Les statistiques de la Chine, qui est en deuxième ou en troisième position, sont très sous-estimées, et je le dis parce qu'on travaille aussi sur ces questions à l'IFRI. Là aussi, ça confirme un peu certaines choses qu'on voit, c'est que les médias, si ces informations, vous dites, vous avez lu ça dans les médias, donnent une vision de ce qui se passe réellement, il est complètement déformé. C'est-à-dire que le premier fournisseur d'armes du continent, qui est la Russie, ne pourrait pas vendre des armes aux pays africains alors qu'elle le fait depuis très longtemps. Donc là aussi, ça se conduit à s'interroger sur le rôle des médias, des réseaux sociaux, sur le problème du marché de l'information en Afrique, qui est quand même... manipulable et où il y a beaucoup de choses qui circulent qui sont quand même pas vérifiées, etc. Et derrière les réseaux sociaux, évidemment, la question de leur manipulation par un certain nombre de puissances, chose qu'on a vu dans les élections américaines, mais qu'on ne cesse de voir maintenant ailleurs, etc., dans tous les domaines. Et donc, quand on parle de la question, parce que les réseaux sociaux, ça permet en effet d'ouvrir, comme je le disais, de nouveaux espaces de contestation et d'amplifier le mécontentement.
mais avec toute la question des fake news, avec toute la question de la désinformation, ça permet aussi de donner une vision du réel qui est l'inverse. Que certains acteurs ont fait une spécialité, si je puis dire, en manipulant l'information. Et donc, il y a la question aussi de l'information en Afrique et du système d'information et du marché de l'information en Afrique qui se pose de manière très, très importante. Et donc, voilà, enfin, là aussi, c'est ces histoires de les Occidentaux empêchent les gouvernements africains de s'armer. Honnêtement, déjà même au XXe siècle, le gouvernement africain achetait des armes en Union soviétique et en Chine. Donc,
merci beaucoup. Je vais passer la parole à Médéric Folly, qui a levé la main.
Oui, bonjour, bonsoir, au but de l'heure, et merci du coup aux différents intervenants. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de questions aussi, mais je vais essayer d'aller assez rapidement.
Oui, faites vite.
Alors, il y a ce sentiment, ce qu'on a appelé le sentiment anti-français. Alors, au vu des différents constats qui ont été établis là ce soir dans les différentes interventions qu'on a reçues, quelle est aujourd'hui, quelles sont du moins selon vous aujourd'hui les solutions pour aller de l'avant? Pour justement, d'une part, faire comprendre aussi que ce n'est pas un sentiment des Africains contre les Français, mais plus un ressenti par rapport à un système qui vient de toute l'histoire, enfin, qui découle de l'histoire africaine. On parle de la colonisation, si on peut même remonter plus loin, il y a peut-être aussi l'esclavage aussi qui joue, etc., la décolonisation plus récemment. Donc, quelles sont aujourd'hui pour vous les solutions qu'on peut mettre en place? La première question. L'autre chose, c'est que aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi noter qu'il y a une vision différente, peut-être, et peut-être que je me trompe, entre la jeunesse africaine de la diaspora, française, France, puisqu'on parle de la France, et aussi avec les jeunes qui sont sur le continent africain. C'est-à-dire que, et ça a été rappelé tout à l'heure, par l'accès à l'information, aujourd'hui, la diaspora africaine a peut-être plus de capacités, de possibilités à accéder facilement à l'information et donc peut avoir peut-être une approche plus nuancée sur ce qui se passe, ce qui n'est pas forcément le cas pour les jeunes sur le continent. Et donc, au vu de ces éléments-là, pour vous, quels peuvent être les apports, bien que différents, de la diaspora, mais aussi de la jeunesse sur place, et surtout pour éviter que, en tant qu'Africains, nous tournions vers peut-être un soi-disant guillemets, nouveau sauveur qui serait aujourd'hui la Russie, hein, puisque c'est aussi un peu ce qui ressort aujourd'hui. L'idée n'est pas de quitter un problème pour aller vers un autre. Et donc, quelles sont pour vous les différentes solutions au vu de ces différentes différences-là qu'on peut aujourd'hui observer? Bon, je vais m'arrêter là. Parce que j'ai d'autres
questions.
Voilà, je pense que ça fait déjà pas mal.
Ousmane, Thierry.
Bon, moi, je risque de vous décevoir. Moi, je suis un journaliste, je suis pas un homme politique. Propose. En fait, j'ai pas de solution, en fait. Voilà, je travaille pas sur des solutions. Moi, je travaille à comprendre les choses. Et c'est déjà assez compliqué de comprendre les choses. Humblement, moi, j'essaie de comprendre les dynamiques en cours. Maintenant, j'ai un avis qui n'est pas une solution, parce que je prétends pas avoir des solutions. Je pense que si une sortie doit y avoir, si une amélioration des procédures doit y avoir, je pense qu'il y a une question fondamentale, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que les Africains bâtissent des États-nations viables. Pour moi, il y a rien n'est viable ici, rien n'est possible, quelles que soient les politiques d'aide, les politiques importées, rien n'est possible si nous n'avons pas des États viables avec une justice à peu près qui fonctionne correctement, système démocratique qui élit les vrais présidents, etc. Donc, je pense que parce que je considère que nous n'avons pas des États viables. Nous avons toujours des États en processus, en construction. Certains même, c'est pire, qui sont totalement dégénérescents. La justice est souvent corrompue, déséquilibrée. L'administration ne fonctionne pas. Donc, je pense que tant que nous n'avons pas des États nations viables et des systèmes politiques à peu près viables. Je ne dis pas parfaits parce que les systèmes politiques ne sont même pas parfaits en Europe, mais un minimum. Et tant que nous n'avons pas ce minimum, on ne peut pas trouver de solution. Pour moi, c'est la base pour construire. On peut échafauder comme beaucoup de pays le font, aller voir un cabinet, un cabinet international qui va construire, Gabon émergent, Sénégal émergent, etc. Ça ne développe pas nos pays, on le voit très bien. L'aide aussi a échoué parce que quand vous prenez les sommes immenses que ces pays-là mobilisent, ne sont pas développées. C'est-à-dire qu'il y a des pays quand même qui sont entrés dans des cycles pétrolifères qui ont produit beaucoup de richesses, Congo, Tchad, qui ont énormément produit d'argent et qui ne se sont pas développés. Donc la question, ce n'est pas seulement une question économique, c'est une question aussi que les fondamentaux, tant que nous ne les réunissons pas en Afrique, il n'y aura pas de solution possible. Et malheureusement, jusqu'à présent, ce stade minimal n'est pas réuni.
Oui, non, je vais passer la parole à Thierry, parce que finalement,
Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Ousmane. Il faut que les Africains sortent de cette logique d'extraversion qui consiste à aller chercher ailleurs la solution de leurs problèmes et qu'ils inventent la solution de leurs problèmes. Leurs problèmes, si je puis dire. Par contre, Médric, vous mettez l'accent sur quelque chose qui est important, c'est que, en effet, il y a une pluralité d'opinions. Il ne faut pas croire qu'il y a une seule opinion, même si les réseaux sociaux tendent à faire, qui donnent toujours un effet d'amplificateur à ceux qui crient le plus fort. Il y a des diversités d'opinions dans la société africaine, et tout le monde n'a pas la même vision des choses. Et c'est pour ça qu'il faut aussi, je pense qu'il y ait beaucoup de discussions entre Africains, d'abord, pour dégager un point de vue qui fasse consensus. Je pense que dans un certain nombre de cas, il ne faut pas non plus réduire la diversité des intérêts et des points de vue à une vision unique qui est celle qu'on voit dans les réseaux sociaux et dans les gens qui hurlent le plus fort. Il y a quand même des divergences et des opinions différentes, et donc il faut qu'il y ait un dialogue interne pour trouver un point d'accord, parce que il est évident que vous avez des intérêts de gouvernants qui ne sont pas les mêmes que les intérêts de la classe moyenne africaine, ne sont pas les mêmes intérêts que les gens au village. Et...
Merci beaucoup. Merci à Thierry, merci à Ousmane, merci à Virginie, merci à Bollard, qui vraiment pour ces débats qui étaient extrêmement riches et intéressants. Je suis désolé pour les débuts cafouilleux de la soirée. Je passe la parole à Étienne Deblois, qui est l'organisateur de ces soirées.
Merci beaucoup, merci à tous. Donc, tout d'abord, nos excuses pour ces débuts un peu difficiles, et puis d'avoir fini 5 minutes en retard ou 10 minutes en retard pour permettre quand même d'avoir un petit peu de débat.